Passion, le magazine de CFM Radio depuis l'Aréole, dans le cadre de cette émission qui s'appelle Radio Folie. Cette Radio Folie, elle est proposée par la Fédération des radios associées de Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes en direct grâce aux moyens techniques de nos amis de Radio Entre-deux-Mers. Hier, nous avions donné la parole aux forains. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à plein de personnes qui sont aussi dans le cadre de cette organisation formidable qui est cette foire et fête de l'Aréole qui date de depuis 1000 ans. C'est pas rien. Et c'est intéressant finalement que de pouvoir donner la parole à ceux qui font cette foire. Alors évidemment, on parle souvent d'un mot qui est péjoratif quelque part. On les appelle les camelots aussi. Moi, je préfère le terme plutôt de commerçant ambulant. Et justement, une commerçante est à nos côtés. Il y en aura plein d'autres. Hein. On va donner la parole à pas mal de personnes. On va commencer par les dames, si vous le permettez, messieurs, s'ils sont nombreux ici aujourd'hui. On va évidemment commencer par elle. Elle s'appelle notre amie Sarah Brégeau, je ne me suis pas trompé, Brégeau, hein.
Brégeau,
pardon. Et elle est venue avec un stand, avec un lieu d'animation particulier. Elle a décidé de mettre en avant les produits alsaciens. Donc c'est aussi une jeune femme, et c'est un peu parce qu'elle est une jeune femme, parce qu'elle est engagée dans ce processus qui est aussi lié à l'histoire de la famille. Hein, c'est à peu près ça. Vous êtes née au sein du monde des forains en général.
Alors moi, pas spécialement de mon côté, plutôt du côté de ma maman, mais mon papa est sédentaire. Après, on tourne donc à 4 structures. Je suis pas alsacienne, ma grand-mère était de Vissembourg, en haut de Strasbourg. Moi, je suis limousine 100%.
Bah, c'est un clin d'œil quand même à l'histoire.
Hein. C'est un clin d'œil, oui, peut-être un petit peu à l'histoire. Et donc, on tourne à 4 structures, c'est familial, mes parents, mon frère, ma sœur et moi-même. Et on présente donc les produits d'Alsace. On les décline sous. Donc vous avez les traditionnels, sel, pavot, sésame. Nous, on retravaille le produit, on le décline sous plusieurs variantes. Donc en sucré, salé. Et après, donc les pâtisseries alsaciennes et aussi donc la bière.
Alors évidemment, pour l'Aquitaine, c'était aussi un clin d'œil très important. Les Alsaciens ont compté beaucoup. Hein. Et puis évidemment, l'Aquitaine et notamment cette région de Gironde, du département de Lot-et-Garonne aussi, les Landes, le Périgord a accueilli pendant la dernière guerre, pas mal d'Alsaciens obligés de quitter leur territoire pendant de nombreuses années, au moins pendant la durée de la guerre, et pas tout à fait parfois. Et donc cette espèce de raccourci est assez intéressant. Je suppose que vous êtes au courant de cette histoire.
Oui, je sais que le Limousin aussi est lié avec l'Alsace. Ouais. Ils sont bien liés, on a beaucoup de pays jumelés avec. Ouais. Donc moi, l'histoire en elle-même, non, je ne pourrais pas trop vous aiguiller. Je ne suis pas calé sur l'histoire alsacienne spécialement.
Un mot sur ce lien finalement qui continue finalement à opérer par rapport à l'Alsace, même si pour vous c'est aujourd'hui un peu loin.
C'est-à-dire
Est-ce que vous avez encore cette... Puisque vous avez choisi de défendre les produits alsaciens.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous allez vous intéresser peut-être aussi à l'histoire de cette région?
Oui, à venir.
Familiale quelque part.
Oui, pourquoi pas, à venir. Bon, là, ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt les produits, tout ce qui peut plaire aux gens, tout ce qui ressort de l'Alsace. Voilà, tout ce qui est...
La bière.
On travaille avec un brasseur de Mulhouse, donc on a de la fabrication artisanale. C'est une très bonne bière. Et donc les produits en général. Après...
Un mot, si vous le permettez, sur votre présence ici. Qu'est-ce que ça veut dire, la fête et la foire de l'Aréole, c'est pour vous?
Pour moi, c'est une nouveauté parce que c'est ma première année. Donc,
comment vous vivez ça, justement?
On l'a vécu un petit peu calmement les premiers jours. Mais après, c'est vrai que pour nous, de bouger, ça permet aux gens de découvrir. Là, on a une majorité de personnes qui connaissent quand même les produits, mais on est quand même une minorité qui me stressait un peu.
Ouais, c'est quand même des histoires de famille. Vous
n'êtes pas venu
là pour rien, quoi.
Oui, non, je ne suis pas venu là pour rien. Non.
C'est bien. C'est une fête pour laquelle vous allez revenir ou pas?
À voir. Mais on aimerait bien, oui.
Ouais, pourquoi pas. Hein.
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Alors, c'est un gros travail. S'engager dans un métier comme le vôtre aujourd'hui, être commerçant ambulant, ça veut dire combien de... Vous bougez beaucoup,
hein, oui.
C'est votre travail.
Oui, à l'année.
Vous êtes jeune maman?
Oui. Une petite fille.
Comment ça se passe finalement pour les études?
C'est beaucoup de boulot. On mélange l'école de la vie avec l'école tout court.
Celle que vous avez connue en plus.
Oui, c'est un très bon mélange.
C'est une histoire d'apprentissage qui est nécessaire, qui se fait tout seul.
Oui, non, mais même ça rend beaucoup plus débrouillard. Enfin, moi personnellement, pour mon... Bon, à titre personnel, pour mon vécu, oui. C'est... Après, on bouge beaucoup, on fait les foires, les marchés de Noël, les festivals également. Donc, c'est à l'année, c'est tout le temps, il n'y a pas d'arrêt.
Non, ouais, pas d'arrêt. Ça n'existe pas ?
Non.
Les 35 heures, ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas chez nous.
Ça n'existe pas. Voilà. Femme courage ?
Ouais. Hein ? Ouais. Ouais. Ah, des fois, on redescend un peu, mais c'est pour mieux remonter.
Métier passion, quand même, ou pas ?
Ouais.
Hein, vous vivez ça avec bonheur ?
Oui, parce qu'on aime le contact, on aime les gens. Pour faire un métier comme ça, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, c'est pas la peine. On aime le monde, on aime le fait de... Bah, après, on bouge, on voit beaucoup de choses, ça ouvre l'esprit.
Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de ces 80 familles qui sont réunies aujourd'hui et qui sont autant de stands ici sur la foire de la Réole ?
Oui, parce que plus ou moins tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît ?
Oui, tout le monde se connaît, et puis c'est toujours des rencontres.
Grandes familles ?
Oui.
Merci Sarah.
Merci à vous.
À notre micro, nous dire que pour les jeunes, ce métier-là peut continuer et peut être à vivre intensément comme vous le savez le faire.
Avec beaucoup de vaillantise.
Oui, ouais, il faut le
faire. Et il en faut.
Un autre métier, alors il n'est pas très loin finalement, puisque vous, entre collègues, il y a d'un côté, il y a aussi un fabricant qui est local, fabricant de bière. Alors vous avez choisi finalement d'être présent, c'est la première année pour vous aussi ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, donc, racontez-nous un petit peu comment est née cette histoire, finalement, Laurent ?
Thomas.
Thomas.
Ben, l'histoire est née autour d'une bière avec ma sœur, en fait. On avait envie de faire quelque chose en commun, un projet en commun. Et on était assez vague, en fait, sur l'idée entre un bar, de la bière, etc. Puis, en fait, on s'est lancé dans la bière. Moi, je faisais de la bière en amateur depuis un moment.
Parce que vous êtes un passionné d'abord de cette boisson en particulier ?
Oui, des boissons alcoolisées. Je travaillais dans le vin avant, j'étais maître de chez. Et une chose en entraînant une autre, ça reste un petit peu dans le même milieu.
Alors ça, c'est curieux quand même finalement. Vous avez fait un grand écart incroyable.
Non, dans pas tant que ça, mais oui, par contre, oui, dans la région viticole, c'est sûr que ça fait un petit peu tâche. Mais on commence à être quelques-uns à apporter des beaux produits dans cette région.
Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'être aujourd'hui producteur ou
brasseur ? Ben, ça veut dire élaborer sa bière avec passion, avec des produits. On essaie de travailler avec un maximum de produits français. Le malt, le houblon.
Racontez-nous un peu, de quoi est fait la bière ? Parce qu'on a l'impression qu'on la déguste régulièrement, on sait ce que c'est,
La bière, c'est de l'eau, du malt, du houblon, un peu de levure et beaucoup d'amour derrière.
De l'orge, forcément.
Le malt, c'est de l'orge, en fait. L'orge, le malt, c'est de l'orge qui a été malté.
D'accord. Voilà. Alors, vous partez sur quel produit ? Est-ce que vous arrivez, finalement, aussi, à trouver les éléments nécessaires à la production ?
Oui.
Sur place.
Après,
il y a des producteurs ?
Sur place, il y a des producteurs d'orge. Après, il faut aller le faire malter. Après, je sais que dans la région, on commence à avoir des producteurs des tests. Oui, puis surtout
d'orge
des producteurs d'orge brassicole et des producteurs de houblon. Avant, il y avait des productions d'houblon il y a longtemps dans la région. Certains commencent à s'y remettre.
Alors il faut imaginer quand même et que historiquement et aujourd'hui, installer du houblon, ça pourrait être, pourquoi pas, une solution éventuellement à l'agriculture. Par contre, c'est un travail gigantesque, hein, parce que le houblon, c'est quelque chose qui grimpe, c'est une liane.
C'est une liane, exactement. Donc le principal problème que ça pose, c'est au niveau du palissage. Ouais. Voilà, où il faut un certain investissement. Après... ça se travaille comme n'importe quel autre
agriculture. Quel est le niveau de sol qu'il faut pour arriver à réaliser ce genre de...
Ça, je ne sais pas.
C'est vraiment, leur problème.
Ouais, c'est pas leur problème. On peut les aider aussi, mais au niveau des sols, de l'agriculture, nous, on peut leur dire ce dont on a besoin, quel type de houblon, etc. Après...
Alors, BS Bar, pour le principe...
Bisbar, tout à fait.
Bisbar, c'est votre intitulé. Votre bière s'appelle comment, finalement ?
Nous, on l'appelle la bise. Donc,
la bise
Oui, c'est ça. C'est vraiment
un clin d'œil ?
C'est deux petits clins d'œil. Un petit clin d'œil à notre nom de famille, le B, de Boulangeau. Et un autre petit clin d'œil, c'est le B, ça nous parle beaucoup. C'est aussi boire une bonne bière. C'est une lettre qui revient souvent chez nous.
Alors aujourd'hui, il est indiscutable que l'on est dans l'obligation de trouver des qualités particulières à la bière. La vôtre, vous la définiriez comment ? D'abord, vous déclinez quel niveau de bière?
On a plusieurs styles de bière différents, mais principalement, on est axé sur des bières qui sont plutôt maltées, pas beaucoup d'amertume, mais on joue surtout sur les goûts du malt et des fruits. On a des bières aux fruits de style différent.
Alors, ça va de quoi à quoi, par exemple, en termes de fruits?
Donc, on a une sour au litchi, c'est un style de bière acidulé. On a une citron vert gingembre sur une base de blonde qui est très, très fraîche, légèrement pétillante et qui a un côté un peu piquant qui rafraîchit énormément.
Alors comment on fournit votre... On peut se fournir en bière chez vous, chez la bise, on la retrouvera où? Sur les marchés?
On la retrouve sur le marché de la Réole, sur quelques foires. On peut la retrouver chez nous à la brasserie, on peut prendre rendez-vous pour...
Chez vous d'ailleurs, c'est où exactement?
À Saint-Martin-du-Puy, à côté de Sauveterre de Guyenne.
Voilà, c'est la région finalement.
Tout à fait.
Voilà. Quel est votre sentiment sur cette foire fête aujourd'hui ici à la Réole pour votre première, même question
c'est
comme
ça,
pour
c'est notre première, Sarah. Donc nous c'est, on essaye de s'y intégrer hein, finalement parce que c'est pour nous les foires c'est un petit peu le début. On a fait quelques fêtes de la bière, etc. Mais c'est vrai que les foires, c'est beaucoup d'exposants, beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas trop. Donc on essaie de faire des connaissances aussi.
Ouais. Vous avez rendu compte que vous étiez dans un monde un petit peu très familial, comme le précisait tout à l'heure
Oui, Sarah. Parce qu'on voit vraiment les exposants, les forains, etc., qui se connaissent. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. Donc nous, après, c'est à nous de faire en sorte qu'on soit aussi... un petit peu dans la famille.
Ouais. Alors aujourd'hui, on vous retrouve un petit peu partout. Est-ce que vous arrivez finalement aujourd'hui, avec votre sœur, à vivre de ce métier ou pas?
Pas encore. Nous, ça fait que 2 ans, donc oui, c'est encore un petit peu compliqué. Après, il faut se développer. Voilà, il faut séduire les gens, il faut leur faire goûter. Les gens ont encore certains a priori sur la bière. Voilà, on leur fait goûter et puis ils se rendent compte que c'est aussi différent d'autres produits. Ouais. Même s'il y a plusieurs brasseurs en Aquitaine, on a tous des produits différents et on amène ce goût, cette envie aux gens de goûter des bières différentes.
Ouais. Alors justement, c'est une question pour Sarah qui, elle, est exportatrice ou plutôt, pardon, qui est vendeuse d'un produit noble qui est celui, noble, habituel, qui est celui de l'Alsace. En fait, le lien est relié là ou pas, d'après vous? C'est Sarah, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez là un brasseur. Est-ce que, par exemple, vous avez envie un jour, pourquoi pas, vous êtes spécialisé en produits alsaciens, on est bien d'accord. Mais pourquoi pas un jour vendre son produit qui vous rappellera cette région pour laquelle vous avez été accueilli ici à la Réole?
Pourquoi pas? Après, nous, c'est vrai qu'on préfère privilégier. Donc, on travaille sur le thème de l'Alsace. Donc, tout ce qui est alsacien, c'est pourquoi je travaille avec un brasseur du Mulhouse pour vraiment amener...
Le produit
à 100%, mais après, pourquoi pas, pour moi-même, oui, parce que moi, je suis une bonne amatrice, donc ouais. J'ai pas de problème avec l'alcool.
Consommer ça avec modération, comme d'habitude.
C'est ça.
Avec ou sans, des fois, ça fait du bien.
Oui, pourquoi pas.
Non, mais après, c'est vrai qu'à goûter, pourquoi pas, à voir.
Ouais. Mais, alors, la bière, elle se marie très bien avec quel produit d'Alsace, dites-nous?
La choucroute.
Par exemple?
La
Et
flamme.
Pas que, la flamme.
La flamme, la flamenco. Ouais. Et puis après, même là, moi, j'ai mes bretzels cuisinées, au maroilles, master... chorizo, tout ça, une bonne bière avec en accompagnement, la mienne ou celle du voisin, je pense que
ça peut le faire.
Hein. Ouais.
C'est sympa. La bière qui reprend un peu, qui prend le pas sur les boissons traditionnelles de notre région, ça, c'est une question peut-être pour vous deux, puisque si on est en Alsace, c'est la viticulture est importante aussi.
Oui, le vin.
Avec le vin, qu'il soit blanc, qu'il soit rosé, qu'il soit pour notre région ici, où c'est aussi beaucoup le rouge hein, dans notre région.
Oui.
Et vous qui êtes en plus professionnel, puisque vous avez fait vos études et vous avez pratiqué en tant que maître de chai, est-ce qu'on peut associer ces deux produits finalement? C'est une question pour vous deux d'ailleurs. Vous voulez répondre, Sarah, s'il vous plaît?
Moi, je dis pourquoi pas. La différence peut se lier, il n'y a pas de problème. Après, bon, y a des vins comme en Alsace, on est sur le Gewürztraminer, le Sylvaner, le Riesling, tout ça. Après, sur des vins bordelais, je pense que ça peut le faire aussi.
Alors justement, oui, le spécialiste que vous êtes...
Moi, je ne suis pas qualifié.
Moi, je trouve qu'il y a des bons accords à faire et avec le vin et avec la bière dans lequel on peut faire sur un repas. On peut partager. Au lieu de faire un plat accompagné avec un vin, on peut l'accompagner avec une bière et accompagner un vin sur un dessert. Des bières qui s'accompagnent très bien aussi avec des desserts.
Un fromage.
C'est ça, fromage. Des fromages. Il y a plein d'accords. Hein. Mets vin, mets bière. Mets bière, c'est plus à découvrir parce qu'on travaille dessus. Mets vin, on commence à les connaître. Mais...
Qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple, comme accord en termes de gustation particulière? On vous invite à quel type de goût?
Ben souvent, sur c'est surtout des accords avec des tapas ou alors avec des fromages. On essaie de travailler sur des produits. Par exemple, sur les fromages, nous, on essaie d'accorder notre ginger lime, c'est une bière citron vert gingembre, sur certains fromages. Après, je sais qu'on a notre bière de Noël qui s'accorde très bien avec des plats asiatiques, ce genre de choses. C'est...
De Noël, pourquoi?
Les épices, les écorces d'agrumes, ça ressort énormément sur des plats, même des couscous, ce genre de choses, ça ressort très bien, c'est très agréable avec.
Ouais. Ah, ça va être difficile de vendre maintenant les vins du Bordelais. Mais pourquoi pas? Tout ça, c'est des questions de papilles, on est bien d'accord, ça?
Ouais. Hein, ouais. Hein.
Donc, le marché... Alors, même question pour vous deux, est-ce que vous vous plaisez dans ce métier nouveau, finalement, vous les jeunes, vous avez bon espoir, finalement? On dit, ouais, les jeunes, ils ne savent pas où ils en sont, ils savent pas, ils sont peut-être un peu perdus. Voilà. Vous vivez l'aventure à fond, Sarah, d'abord?
On va dire que la vie qu'on mène et la conjoncture actuellement, c'est pas facile pour les jeunes. Je pense qu'il faut se donner les moyens de ce qu'on veut 100 fois plus qu'il y a 20 ans en arrière.
Ouais, c'est vrai pour chaque génération, je pense.
Oui, bon, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut en vouloir. Ouais. Si on est motivé, qu'on en veut, si on baisse les bras, c'est sûr qu'on n'avance pas, mais si on est motivé...
Vivre en famille, cette expérience, finalement, c'était nécessaire?
Nécessaire, non, mais nous, c'est super, on s'entend très bien, donc on est complémentaires, donc c'est vraiment mieux.
Bon, ça grince pas trop les dents en famille, quand on dit qu'on va faire de la bière dans un pays de viticulture, où on s'est engagé pour la viticulture au départ?
Non, après, tant qu'on reste passionné, c'est ça, il faut être heureux dans ce qu'on fait, c'est tout ce qui compte.
Merci, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour votre avenir, soit dans la bière, soit dans les produits alsaciens.
Et merci
d'avoir
monsieur.
Été ici à nos micros pour nous conter votre belle histoire.
Au plaisir.
Qui ouvre un beau livre, je l'espère. On va écouter, si vous le permettez, cette toute première pause musicale et on se retrouve juste après. Swing d'Alsace, c'est Moreno, un groupe sympathique. Alors, c'est un joli petit clin d'œil que Damien, notre technicien, a tenu à faire avec nos amis qui étaient présents et Sarah en particulier, bien sûr. Dans le cadre toujours de cette émission aujourd'hui, ici, en direct depuis l'Aréole et sur les ondes de Radio Entre-deux-Mers, dans le cadre de cette jolie initiative sympathique s'appelle Radio Folie. Radio Folie instaurée par la FRANA. C'est-à-dire la FRANA, c'est la Fédération des radios associées ou associatives, associées parce que ce sont des amis, de Nouvelle-Aquitaine. C'est 36 radios qui se sont réunies et régulièrement quelques radios amies. En l'occurrence, moi, je représente une radio du département de Lot-et-Garonne qui s'appelle CFM Radio. Et puis deux autres aussi. Bon, moi, je ne les citerai pas parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Nous avons le plaisir et le bonheur de partager les antennes en général avec nos auditeurs de façon à porter un peu la parole d'un événement très, très important ici dans le cadre du Grand Sud-Ouest et du Sud-Ouest en particulier et de l'Aquitaine surtout, puisque cette foire qui, ici à l'Aréole, foire fête, hein, que je qualifie de fête plus qu'autre chose, et finalement la deuxième, la plus importante de l'Aquitaine en particulier, avec, rappelons, hein, à peu près entre 30 000 et 40 000 visiteurs qui sont là pendant les 4 ou 5 jours, selon les années, autour de cet événement intéressant où s'associe le monde des forains, le monde de l'artisanat, celui du matériel rural et autres professionnels, les agriculteurs représentés et des associations aussi, puis les camelots ou autres commerçants ambulants, hein, qui sont très nombreux, je crois qu'ils sont 400 au total, l'un dans l'autre. Eh bien, il faut reconnaître que il y a des associations qui sont invitées et qui, et c'est normal, sont représentatives un petit peu de ce que la ville de l'Aréole et son environnement représentent. C'est le cas notamment de la chasse. La chasse à travers la fédération, bien sûr, nationale ou d'Aquitaine, bien entendu, mais les sociétés de chasse réolaises, la société de chasse réolaise, qui est aujourd'hui défendue par son président, Jean-Paul Bonneau, et puis... et puis nous avons une deuxième association, des ACCA, puisque ce sont deux ACCA, ils nous diront ce que cela veut dire. C'est aussi M. Stéphane Manzato qui est là également de Bagas. Il est venu en voisin, lui, pour finalement nous conter tout ça. Monsieur le Président, je voudrais, messieurs les Présidents, je voudrais tout de suite que vous nous rappeliez ce que c'est qu'une société de chasse en ACCA. Tout d'abord, s'il vous plaît, M. Jean-Paul Bonneau. Dites-nous tout.
Messieurs, d'abord bonjour. Une ACCA, c'est ni plus ni moins qu'une association communale de chasse agréée. C'est-à-dire, dans le Réolais, nous sommes 8 communes associées, un groupement de 8 communes associées. Voilà le but de la ACCA du Réolais.
Alors, quelle est l'idée finalement d'être présent sur cette manifestation était une... est une idée intéressante d'une part, parce que c'est aussi l'occasion de parler un petit peu dans le cadre de cette ville que représente 4000 habitants, hein, que représente l'Aréole. Vous représentez aussi un peu plus peut-être, représente aussi la ruralité. Vous représentez un peu le terroir.
Voilà. Nous, l'association de l'ACCA de l'Aréole, nous sommes présents sur la foire de la Toussaint, ça fait des années et des années. Nous sommes ici pour uniquement faire connaître la chasse, contrairement à beaucoup de dandies, parce que tout le monde n'est pas favorable sur la chasse, surtout actuellement, c'est la grosse actualité actuelle. Donc nous sommes ici pour
rappeler simplement...
Voilà, pour précisément, éventuellement, nous faire connaître et, contrairement, éliminer ces désaccords que nous avons entre certaines personnes et puis nous-mêmes. Voilà, nous sommes là pour nous faire écouter,
Pour dialoguer, hein, c'est
pour dire. Pour essayer, parce que ce n'est pas évident de dialoguer avec tout le monde. Pour essayer déjà de se faire comprendre.
Alors, d'abord, on va le présenter, si vous le permettez. Cette association, aujourd'hui, elle représente combien de chasseurs sur le Réolais ? Alors, en termes de chasse, Une association, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Une société, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une association. C'est différent. C'est une asso, ouais. Mais c'est d'abord une société de chasse, on est bien d'accord. C'est pas une... tout à fait le même distinguo.
Voilà. C'est une société. Actuellement, je pense, je vais parler moi uniquement, parce que dans la Gironde, je pense que nous sommes à peu près, là je vais parler en tant que, pour la fédération, 42 000 chasseurs environ en Gironde. Mais sur la commune de La Réole, je pense que nous sommes... En tant que chasseur, à peu près entre, il faut compter à peu près 400 chasseurs sur la Réole. Par conséquent, disant un chasseur ne dit pas forcément permis, enfin carte de chasse. Voilà. On peut être chasseur du Réolais et puis prendre des
permis ailleurs.
D'autres des permis, voilà, des permis ailleurs ou d'autres cartes ou un truc comme ça. Carte actuellement sur la Réole, à peu près 50 cartes sur la Réole, mais on peut évaluer à 400, entre 400 et 450 chasseurs sur la Réole.
Alors, ça veut dire que vous vous engagez dans un regard et dans une défense, évidemment, de ce territoire. Parce que si vous voulez continuer à chasser, il faut être attentif à ce que représente le territoire et la faune qui s'y trouve. Donc vous faites un travail très important. Rappelez-nous un peu ce que le monde de la chasse met en place.
Voilà. Nous travaillons pour précisément régulariser la sauvagine, déjà d'une part, et ensuite nous travaillons avec mes collègues qui sont là actuellement, la police municipale, pour éventuellement les chiens errants, les chiens, beaucoup de chiens oui, errants, et puis... Dans ce sujet-là, vous savez, beaucoup de bestioles esquintées, des sangliers, des chevreuils, tout ça sur la voie publique, où c'est nous qui gérons un petit peu cette situation, avec l'écarissage, travaillant avec l'écarissage, où on se débrouille, voilà, avec
eux. Alors, c'est vrai que la chasse, c'est certainement un loisir, certainement une passion indiscutable, qui vient de très très loin, bien entendu. Vous, je suppose que c'est quelque chose que vous avez vécu progressivement dans cet apprentissage familial au départ. Je voudrais vous poser la question, c'est, elle est vraie et elle est bonne pour tous les deux. Vous, Monsieur Bonneau d'une part, et bien entendu également Monsieur Manzato. Qu'est-ce que ça veut dire la passion pour la chasse d'une part? C'est, comme d'aucuns le disent en général, c'est la passion d'abord de la nature, on est bien d'accord? Même si le mot chasse dérange parfois, Monsieur Manzato, peut-être.
Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Déjà, la chasse, c'est une bande de copains. On part dans la nature, on trouve ce qu'on voit et on n'est pas là principalement pour tuer, quoi.
C'est voilà. La découverte du gibier.
Voilà.
Sauf qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs chasses. Quelles sont les chasses qui vous passionnent et qui vous intéressent, l'un et l'autre, s'il vous plaît?
Ben, nous, tout ce qui est renard, sanglier, chevreuil, la plume, bien évidemment, tout ce qui est... voilà.
Sauvagine, surtout.
Sauvagine?
Voilà.
Vous déclinez?
On est obligé de régulariser cette sauvagine-là. Parce que
de réguler.
Oui, parce que, bon, bien, j'en parlais encore ce matin avec certaines instances administratives, là, et c'est vrai que le jour... où il n'y aura plus de chasseurs pour régulariser ou réguler le renard, le sanglier, qui cause énormément de dégâts. Je ne sais pas où c'est que...
On a tendance un peu à oublier que le monde de la chasse en général, les sociétés de chasse en particulier, sont tenues et obligées d'avoir des assurances pour les dégâts que réalise le gibier et autres... et vient dans toute la faune en général auprès des agriculteurs. C'est-à-dire que, voilà. Il y a le ragondin, il y a beaucoup d'animaux qui deviennent un problème pour le monde rural et pour l'agriculture en particulier.
Voilà.
Vous êtes obligé aujourd'hui. Alors, moi, j'ai le souvenir, j'en parlais encore il n'y a pas tellement longtemps, j'ai le souvenir d'une expérience en 1968, alors pardon, ça remonte un peu, où. Le préfet de Lot-et-Garonne, pardon de citer cet exemple que je connais, hein, qui voulait interdire la chasse aux chevreuils dans le massif landais. Parce que, disait-il, c'est un gibier qui est en perdition. Or, aujourd'hui, des années plus tard, vous êtes obligés, vous, les chasseurs, d'organiser des battues pour réguler ce gibier-là. Donc, en 68, du sanglier, il n'y en avait pas du tout.
Exact.
Alors, aujourd'hui, vous avez de nouvelles problématiques, finalement, à gérer aussi, en termes de chasse. C'est ce que représente aujourd'hui la dangerosité de ce gibier qui se promène, qui se balade, qui passe et qui porte aussi quelques maladies. Je voudrais que vous disiez l'un et l'autre un mot là-dessus.
Il ne faut pas quand même généraliser, parce que la maladie sur le sanglier, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité chez nous. Pour l'instant, on commence à parler sur la Belgique ou un truc comme ça. Peut-être que ça...
Il faudra y venir. Il faudra un peu comme le moustique chikungunya. On disait, c'est pas pour nous, c'est à La Réunion.
C'est pas l'ordre du jour pour nous. Mais nous avons énormément de problèmes actuellement, pas pour le sanglier, mais surtout sur le chevreuil, avec les dégâts surtout dans la vigne, sur les jeunes pousses de vigne. Mais le point le plus crucial, c'est sur le renard. Nous savons que le renard est porteur de maladies, c'est-à-dire la gale. Et nous nous battons énormément, uniquement à l'aréole, tous les ans, on tourne à 14 renards. Sachant qu'une femelle arrive à faire 7-8 petits, imaginez-vous, si on ne s'intéressait pas à ce sujet-là, imaginez-vous d'une année à l'autre le problème qu'il y aurait. Bon, c'est ça, c'est les chevreuils, et ça commence. Pour le sanglier, ça commence. Nous avons connu des problèmes sur la route de Lillet, en basse, avec des accidents occasionnés par les sangliers qui traversaient la voie publique ou la voie nationale. Nous sommes obligés de régulariser tout ça, de se pencher sur ce problème-là. Contrairement à beaucoup de personnes, vous savez, quand vous promenez le dimanche, quand on parle de se balader le dimanche, un dimanche à la chasse aussi ou là, nous n'avons que le dimanche pour chasser. Quasiment. Le restant, ce sont les retraités.
Et puis c'est les battus quand même.
Ce sont les retraités, voilà. On ne ferait pas de battus le dimanche pour régulariser ce truc, pour éliminer un maximum de sangliers, mais il y aurait davantage d'accidents, mortels même, avec des bestioles de 100 kg sur la route.
Il ne faut pas oublier qu'un sanglier, quand il a décidé de passer là, il passe. Hein.
Voilà.
Il ne sait pas s'il y a des voitures ou des choses comme ça. Donc il faut être très prudent. Alors, d'ailleurs. C'est un conseil que vous pouvez donner à ceux qui sont sur la route. Hein,
les gens qui veulent se balader le dimanche, qui ont dit se prendront un sanglier de 100 kg sur le coin du baigneur, je pense que les vacances seront terminées de suite.
Ouais, donc voilà, donc vous faites un gros travail. Ce travail d'information aussi auprès des jeunes, c'est important.
Nous incitons un maximum de jeunes, c'est pour ça que nous parlons du permis à 0 €. Nous incitons les jeunes à se pencher sur la chasse, parce que c'est vrai que...
Les chasseurs ont les tempes un peu grisonnantes de plus en plus, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. Vous savez, un chasseur à 70 ans ne le remplacera plus. Donc on se penche énormément sur les jeunes pour l'avenir de la chasse, parce qu'il faut garder cette chasse, il faut la garder.
Ne serait-ce que pour la régulation qui devient... obligatoire aujourd'hui, et même plus nécessaire, obligatoire.
Et la sécurité.
Oui, c'est une question de sécurité. Un mot quand même, M. Mazzanto, Stéphane, sur présenter, si vous le permettez, votre ACCA aussi. Quel est votre secteur de...
Et moi, je se trouve sur la commune de Bagas, toute petite commune où on a 20 permis. Malheureusement, on en a perdu depuis l'année dernière une dizaine. Mais beaucoup de jeunes aussi qui sont partis. Parce que voilà, le permis est cher, ils se mettent en ménage ici et là, donc...
Ils n'ont pas le temps non plus.
Oui, ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire que voilà.
La multiplication des distractions aussi, c'est un frein aussi à l'engagement autour de la chasse.
Oui, je pense un peu, mais bon...
Est-ce que les procès qui sont faits à la chasse, c'est pas quelque chose qui risque aussi de déranger un peu l'intention ou l'envie de s'engager dans cette pratique?
Ben, je sais pas, moi je pense que c'est un truc avec tout ce qu'ils entendent. Voilà, il ne faut pas tout écouter, tout ce qu'on raconte et tout ce qui se dit surtout. Voilà.
Alors moi j'inviterai les gens qui ont envie d'en connaître un peu plus, de s'approcher évidemment de tous ces lieux de rassemblement, aller les rencontrer, discuter avec les chasseurs, car je pense qu'ils apprendront pas mal de choses. Et puis surtout aller taper aux portes des palombières, c'est le cas en ce moment. Ils en apprendront beaucoup là aussi, hein. C'est la nature, si tu l'as vrai. C'est un gros travail. La cabane d'enfance peut être aussi un moyen finalement avec papy et mamie souvent, qui est pas loin, d'apprendre la nature tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un champignon ? C'est souvent ça. Là derrière, hein, derrière tout ça. Merci messieurs d'être venus à notre micro pour nous dire un peu et nous conter votre passion et votre engagement, parce que ça c'est très important. On va écouter tout de suite un second choix musical et on se retrouve juste après dans le cadre de l'émission Passion.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
Toujours en direct dans le cadre de cette émission qui s'appelle Radio Folie sur Entre-deux-Mers, Radio Entre-deux-Mers, qui nous accueille ici dans le studio mobile qu'ils ont installé dans le cadre aussi de cette convention passionnante autour de la FRANA, la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, qui a mis en place à la fois ce studio et cette expérience drôlement intéressante. Au départ, c'est quand même 36 radios pour la Nouvelle-Aquitaine et surtout l'Aquitaine que nous connaissons le mieux, hein, celle qui se trouve, qui, l'ancienne Aquitaine, voilà, pour ne rien cacher. Du côté de la technique, c'est Damien qui nous accueille, qui met en onde toute cette partie-là. Et puis c'est Radio Entre-deux-Mers donc, qui diffuse en direct, là, en ce moment, cette expérience radiophonique. Et je vais rappeler que c'est CFM Radio, qui est une radio du Lot-et-Garonne, de Casteljaloux, qui aujourd'hui propose l'émission qui s'appelle l'émission Passion. On accueille, s'il vous plaît, des personnages qui sont drôlement importants autour de cette fête et foire de l'Aréole, qui est un lieu et un moment très important pour ceux qui nous rejoindraient. On rappelle quand même que c'est cette foire à 1000 ans d'expérience. Et aujourd'hui, cette modernité avec les obligations que requiert un outil pareil, exceptionnel, je crois que c'est à peu près 400 entreprises, familles, on va dire, qui sont réunies autour de cette expérience tous les ans autour de la Toussaint. Alors, nous allons accueillir David Di Marzio, qui n'est autre que le placier. Il a un rôle particulier, original, difficile aussi pour placer tout ce petit monde, ces 400 familles dont je parlais précédemment. C'est aussi Laurent Vassot qui n'est autre que le chef de la police municipale ici à La Réole et qui est en rôle, alors là, complètement essentiel et très important, et qui nous dira un petit peu ce que ça veut dire que d'organiser une opération comme celle-ci, compte tenu aussi des nouvelles réglementations qu'impose ce genre de rendez-vous autour de 30 à 40 000 visiteurs par an autour de cette manifestation. Nous aurons plus tard, on donnera la parole également à quelqu'un qui est de La Réole, qui est aussi une épicurienne, et pas pour rien, puisqu'elle représente son établissement qui s'appelle l'Épicurienne. C'est une boulangerie-pâtisserie qui est ici, et c'est madame Rosabelle, c'est ça, hein, je ne me suis pas trompé. Pelletier, qui n'est autre que la responsable de cet établissement et qui, pour l'occasion, met en place, évidemment, son échoppe dans la rue avec les autres commerçants ambulants, mais qui va nous dire, elle, plutôt, son sentiment sur cet événement qui dure maintenant depuis 1000 ans. On va tout de suite poser la première question au placier. Qu'est-ce que ça veut dire que d'organiser une opération comme celle-ci? Pourquoi vous avez d'abord accepté une tâche comme celle-là? Ça semble un peu frappadingue, hein, quelque part.
Bien, pour la même raison que j'ai accepté de venir parler ici à la radio, pour mettre en avant, notamment et à l'honneur, le travail qu'accomplissent différentes personnes. Je trouve que c'est bien de mettre en avant le travail des forains, le travail de ces commerçants ambulants, parce que ce n'est pas une tâche facile. C'est un mode de vie un peu particulier qui demande beaucoup d'efforts. Pour mettre en avant également tous mes collègues de travail au service technique, au service administratif, lorsqu'une mairie prend cette responsabilité, lorsque un maire prend la décision de faire perdurer une foire, même si peut-être ça fait poser beaucoup de questions au niveau financier ou autre, eh bien je trouve que c'est intéressant de saluer les efforts qui sont faits, parce que aussi on vit une époque où les gens vivent de plus en plus à la maison, enfermés chez eux, ouais. Et que la foire c'est l'occasion de se retrouver à l'extérieur. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai relevé le défi le jour où j'ai eu l'occasion d'avoir cette proposition d'organiser une foire, et notamment d'abord par le marché. J'ai pris un peu la température en organisant le marché de La Réole.
Quel lieu de quand d'ailleurs?
Tous les samedis matins, hein, voilà, un beau marché qui a lieu tous les samedis matins.
Qui ressemble combien de...
Alors le marché de La Réole, j'ai 115, 120, 150 parfois personnes, avec un beau pôle alimentaire et un pôle non alimentaire. J'ai notamment Madame Pelletier, hein, la boulangère à côté, qui est d'ailleurs devant mon bureau de la foire, hein, pendant la foire, hein, et qui fait du bon boulot. C'est une belle expérience. Moi, tout à l'heure, vous avez interviewé d'autres personnes, et c'est beau de voir combien ce rôle de placier, entre autres, permet de connaître plein de gens. C'est des aventures humaines. J'étais sur une foire il y a quelques temps pour prospecter pour la fête de la foraine, et j'ai rencontré un stand alsacien, et je suis lorrain. Alors j'ai demandé à ce stand de bien vouloir venir ici, et vous avez interviewé cette personne qui vient faire connaître ses produits alsaciens remodelés en Nouvelle-Aquitaine. C'est bien.
Ah ouais. Et jeune fille en plus, jeune femme. Hein,
c'est ça.
C'est intéressant.
C'est ça.
C'est l'avenir là.
Avec notamment un gâteau qu'elle présente, j'en fais la publicité, le Streusel. J'en parle à un autre boulanger régulièrement de La Réole qui ne connaît pas. Donc voilà, c'est l'occasion de connaître des choses, même pour des gens expérimentés. Ah. Le Streusel, je ne sais pas si vous avez connu le Streusel, il faut aller goûter au stand alsacien, par exemple.
Voilà. Alors ça, c'est bien, parce que c'est cette interaction, finalement, entre les régions est une chose formidable. Quelle est la difficulté de votre métier dans le cadre de cette opération tout à fait exceptionnelle? C'est quoi comme marge de manœuvre en termes de temps et en termes d'installation, par exemple?
Alors moi, j'y travaille dès la fin de la foire. Je commence à travailler pour la suivante. Voilà. Et à partir de janvier, on commence à voir qui va revenir sur la foire, lequel est titulaire. Il y a un règlement bien particulier avec des gens qui ont acquis un droit de place que la mairie leur octroie, mais parce qu'il y a un règlement qui leur dit que sur 2 ans, par exemple, s'ils sont toujours là, s'ils ne sont pas là pendant 2 ans, ils perdent leur place, mais sinon, ils ont une place acquise. Donc, il faut déjà contacter ces personnes qui sont titulaires. On leur envoie un dossier pour qu'ils se réinscrivent. Et puis, c'est pareil pour le monde des forains, parce que je m'occupe à la fois du côté braderie, hein, et avec les commerçants ambulants, et côté forain. Donc, il y a des gens qui sont en place depuis des années qu'il faut recontacter pour s'assurer qu'ils vont revenir.
Alors, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Hein. Vous avez un rôle essentiel. Et moi, je me pose la question, je me dis... Mais... Quand on voit des grosses semi-remorques, 3 ou 4 pour un seul manège qui arrive, comment on organise ça? Parce que là, il y a une espèce de gros engin qui se trouve là, carrément au bout, un autre au milieu, un autre au bout. Enfin, voilà. Et puis au milieu, il y a des manèges dans tous les sens, il y a des trucs partout, il y a des véhicules qui sont les uns derrière les autres. Comment on gère l'espace dans le temps? En gros, c'est cet espace qui veut dire quoi en termes de volume? Vous disposez de quoi en termes d'espace?
Alors, y a tous les quais qui sont... alors, au niveau du métrage, je ne connais pas le chiffre précis, mais j'ai par exemple, pour les forains, j'ai j'ai 100... Le plus gros des numéros, c'est le numéro 70, mais avec des parcelles qui sont divisées. Donc il y a un plan qui est fait en mairie par un membre de la mairie qui a un plan avec depuis des années précisé des endroits.
Précis, ouais.
Et on vérifie ensuite au sol, on doit refaire un calcul d'implantation avec les collègues des services techniques. On met un coup de peinture sur des lignes, on délimite les emplacements prévus pour vérifier que tout va rentrer. Puis ensuite il y a un moment où ils arrivent pour s'installer.
Mais là il faut les faire venir en temps utile, c'est-à-dire que le plus gros des manèges qui doit être au bout, je dis une connerie, mais il faut qu'il arrive en premier, lui, sinon les autres, ils font comment pour manœuvrer, vous voyez ?
Bon, après, les allées sont assez grandes, et puis, en fait, à ce niveau-là, c'est plus trop moi qui gère, ils ont l'habitude, ils se connaissent entre eux, voilà. Et à partir du moment où ils savent où ils se mettent, ils arrivent, bon, après, il faut des fois, parfois, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage, c'est clair, mais non, ça se passe bien, c'est pas trop moi qui gère l'arrivée des... Il y a un moment donné où ils doivent arriver, après le marché d'ailleurs du samedi, traditionnellement, ils arrivent à partir de 15h et ils s'installent.
Et là, ça s'installe. Toute la partie électrique, c'est vous aussi ou pas?
Alors là, c'est la régie et voilà,
municipale
qui s'en occupe. Effectivement, qui cette année a fait un beau travail en amont, c'est organisé pour qu'à l'avance, des coffrets soient installés, etc.
Alors c'est une très grosse consommation électrique, je suppose, évidemment.
Ouais, ouais.
Et là, on va rappeler quand même que chaque établissement... forains et autres payent leur propre énergie. Hein.
Alors effectivement, ils ont des droits de place à régler. Hein, et il y a également une facture électrique. D'ailleurs, cette année, on a cumulé pour leur faciliter la tâche au même bureau un accueil pour leur permettre de venir payer leur facture au même endroit.
Alors, c'est un travail passionnant pour vous ou pas ?
C'est très intéressant, très passionnant. Ça prend beaucoup d'énergie. Au moment de la foire, mais c'est passionnant parce qu'on fait des rencontres multiples et diverses. Et voilà, c'est vraiment...
Et vous êtes tout seul ?
Alors tout seul...
Avec une équipe derrière ou pas ?
Il y a une équipe.
En amont ?
Par exemple, ce matin, j'avais mes collègues des services techniques qui très tôt le matin, par exemple, se lèvent pour nettoyer la ville. Avant chaque jour de la foire, il y a une équipe technique au niveau de la mairie qui, avant la foire, il y a des barrières installées. Il y a un travail immense. Je découvre d'ailleurs l'immensité de ce travail. Je remercie tous mes collègues qui collaborent parce que tous les ans c'est pareil. Et la police municipale, entre autres, hein, qui doit, d'ailleurs, elle va en parler, hein, travailler pour la sécurité de la place.
Alors justement, à nouveau. Quelque chose qui est complexe finalement, et nous avons la chance d'avoir Laurent Vasseau qui n'est autre que le chef de la police municipale de La Réole. Vous êtes en charge de cette difficulté aujourd'hui ou pas? Parce que vous avez connu l'évolution de cette foire avec des données qui étaient un peu plus faciles, un peu plus simples. Or, depuis, on va dire, 3 ans maintenant, c'est devenu strict. Vous dépendez aussi non seulement de la mairie, mais vous dépendez surtout de la préfecture. Avec des objectifs obligés. En clair, 40 000 personnes sur 4 jours, ça ne se gère pas et vous ne pouvez pas les gérer exactement comme vous gériez précédemment.
Tout d'abord, merci de nous recevoir. Merci de penser à nous dans ces moments un peu compliqués et difficiles, car 4 jours de foire, c'est quand même une préparation de 6 mois en amont avec les différents acteurs de la sécurité. Que ce soit bien sûr la gendarmerie avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour mettre en place les différents services de sécurité au cours de la journée et bien sûr des nuits qui suivent pour les 4 jours de la foire. Et comme vous le dites tout à l'heure, l'évolution a fait qu'on prend des mesures chaque année différentes, notamment par rapport à ce qu'on a pu malheureusement... pu connaître sur notre territoire national, notamment aux attentats qu'il y a eu à Paris et à Nice. Ce qui nous a amené, comme vous avez pu le voir, en amont de chaque entrée sur le site de la foire, nous avons positionné des plots en béton de manière à éviter toute intrusion de véhicules légers ou véhicules lourds. Donc c'est ce genre de chicane que nous mettons les premiers jours de la foire, très tôt dans la nuit, de manière à ce que tout se passe dans un confort pour tout le monde et accueillir une foule importante sur les 4 jours.
Alors quel est le nombre de personnes que vous êtes obligé de gérer finalement?
Alors,
vous à la police municipale, c'est les mêmes personnes, je suppose, mais là c'est à fond.
Tout à fait. Donc,
là on ne compte pas les heures. Là.
Exactement, nous sommes donc trois agents actifs au niveau de la police municipale, hein, donc mes deux collègues qui sont des acteurs principaux. Nous avons 30 gendarmes qui sont sur le site de la foire, donc 24 heures sur 24.
Et que la mairie est obligée de rémunérer, on n'oublie pas.
La mairie participe aussi financièrement à la présence, donc notamment des réservistes de la gendarmerie. Nous avons aussi chaque année la chance d'avoir, grâce au service de l'État, l'armée, qui est un nombre de 26 militaires qui patrouillent les premiers jours sur le site de la foire, mais surtout en dehors, de manière à sécuriser l'accueil
Les
abords extérieurs, de manière à sécuriser le public et pour éviter toute incivilité ou autre cas peut-être beaucoup plus gravissime qui pourrait arriver sur le déroulement de ces 4 jours.
En passant que c'est du 24h sur 24, hein, faut pas oublier ça quand même.
Tout à fait, c'est 24h sur 24. Nous travaillons en étroite collaboration. Nous faisons un debriefing quotidien avec les services de la gendarmerie, les militaires présents sur le site, la sécurité civile.
Les civils également qui sont là, en nombre. Hein,
en nombre, il y a 20 agents de sécurité qui aussi travaillent énormément avec nous, qui assurent les entrées et les sorties donc, des points de la foire, qui sécurisent aussi le hall, là où nous sommes, où nous trouvons actuellement la nuit, etc. Enfin voilà. Il y a tout un système, nous sommes environ 80 personnes,
hein.
À peu près, hein, peut-être je ne vais pas en oublier, mais je ne pense pas, 80 personnes qui assurent une sécurité maximale 24 heures sur 24 pendant 4 jours.
Voilà. Et ça en coûte évidemment, bien sûr. Cette volonté finalement, parce que d'aucune sont les foires qui arrêtent, hein, pour ces raisons-là, Périgueux, Bergerac, bien d'autres, Marmande se pose la question. Quel est le sentiment, je pose cette question à vous deux, et on verra avec madame tout à l'heure ce qu'elle pense de cette volonté finalement politique au sein de la commune, de l'Aréole, de perpétuer cette histoire. 1000 ans, c'est pas rien, 1000 ans d'histoire. Est-ce que pour vous c'est encore jouable? Est-ce que c'est gérable? C'est à peu près 400 stands et autres familles, je le disais tout à l'heure en présentation, c'est à peu près ça. C'est une question pour vous deux d'ailleurs.
Je vais, David répondra en suivant, mais je rebondis par rapport à ce qu'a dit David dès le départ. C'est quand même une équipe, une grande équipe, parce qu'il y a bien sûr les services de la sécurité, mais il y a aussi tous les services techniques auxquels il faut greffer. Et donc c'est vrai que la municipalité fait l'effort maximal de manière à ce que cette foire puisse perdurer. Et je ne suis pas absolument pas inquiet à ce niveau-là, au niveau de la sécurité qui est mise en place.
Merci à vous, messieurs, d'être venus nous expliquer, nous dire un peu ce que cela veut dire. Justement, madame Pelletier, vous qui êtes qui représentez les établissements, l'épicurienne, l'épi, plus loin, curienne, hein, j'aime bien l'idée, mettez votre micro devant votre bouche, merci. Quel est votre sentiment, vous qui êtes aussi une commerçante à part entière, à longueur d'année, ici, puisque vous représentez cette pâtisserie-boulangerie?
Oui.
Quel regard vous portez sur cet événement tous les ans, ici à la Toussaint d'abord?
Moi, je trouve que c'est un très bel événement, forcément. Ça apporte aussi une belle image à la ville. Ça apporte aussi quelque chose de chaleureux. Entre commerçants ou même entre clients, on peut se retrouver différemment que dans une boutique. Forcément, ça apporte aussi une activité supplémentaire
pour, voilà. Pour l'ensemble des commerces de la ville.
Je pense. Enfin,
ouais, que ce soit les restaurants, les.
Moi, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, mais ouais. Oui, moi, forcément, ça m'apporte une activité en plus. Et puis ça permet aussi de faire découvrir nos nouveaux produits, faire déguster, faire connaître. Voilà, ça permet aussi de...
Est-ce que justement ce rendez-vous est quelque chose d'important pour vous ? Ça veut dire que comment vous vivez ça ? Comment vous êtes obligé de vous...
Ben moi,
vous préparez un peu plus.
Oui, voilà. Enfin, moi, c'est la deuxième année que je le fais parce que ça fait que 3 ans que je suis sur l'aréole. Donc, voilà, j'ai pas trop de recul. Mais oui, forcément, il faut se préparer à l'avance, faire des préparations, des choses comme ça. Mais sinon, oui, ben après, oui, c'est des moments où on peut tous se retrouver les uns les autres.
Est-ce que, entre guillemets, vous avez un retour sur investissement, c'est-à-dire un investissement humain que
oui,
vous mettez
tout à
en
fait,
place,
oui, oui.
Avec des gens qui, finalement, lorsqu'ils passent du côté de l'aréole, ayant vécu finalement l'expérience de cette fête foire ici de la Toussaint, se retrouvent de temps en temps dans votre établissement.
Oui, tout
tiens,
à fait.
J'ai goûté sur,
oui, oui.
sur votre petit stand, vous m'avez fait goûter
c'est ça,
ça
oui,
vous
oui.
l'avez encore ?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Donc c'est du positif plus
ah,
que du positif.
Ah, tout à fait,
hein.
oui, oui, oui.
Voilà. Donc voilà, bah, on va donner rendez-vous évidemment à tous ceux qui ont envie de déguster
voilà,
des choses un
oui,
peu
oui.
exceptionnelles. Qu'est-ce que vous proposez pour cette foire justement ?
Tourte réolaise, pain d'épices, cake au citron, 3 achetés, le 4e offert et tout est fait maison.
Alors, tourte réolaise, dites-nous
voilà.
tout, faites-nous rêver, c'est fait comment ?
Alors, je ne vais pas dire tous les secrets, mais,
bien sûr, mais, non, mais qu'est-ce
voilà,
que
ça fait un peu comme un cake avec rhum raisin.
Donc, on a... ah oui, rhum raisin, ben bien sûr. Oui. Forcément, ce fameux
Après,
rhum qui est remonté.
Après, pain d'épices, voilà, cake au citron, c'est aussi des choses...
Est-ce que ça fait partie des vieilles histoires ou méthodes un peu particulières cette Il y a un pain aussi réolé ou pas ?
Moi, c'est des fabrications traditionnelles. Hein, voilà, c'est... Mais sinon, non, après, c'est pas non plus... Mais c'est des fabrications, ça reste des fabrications traditionnelles.
Bon, messieurs, là, je suppose que du côté de la police municipale ou du service placier, vous connaissez cette espèce, non ?
Oui,
et
oui.
vous avez goûté un petit peu à tous ces produits-là. Est-ce que le fait, justement, d'avoir aussi d'autres confrères, collègues, qui se trouvent en ambulatoire, comme ça, qui bougent un peu sur ce territoire, vous repérez quelques petites choses en vous disant « Tiens, ça, je le ferai bien ».
Bon, oui, mais on ne va pas le dire.
Ça, c'est un clin d'œil quand même, c'est intéressant.
Tout se dit pas.
Ouais, ouais. Bon, c'est bien. Bon, heureuse finalement de vivre à l'aréole finalement.
Complètement, ouais. oui.
Vous arrivez
oui.
de quelle région ?
Bourgogne.
La Bourgogne. Oh, ben oui. dis donc, un lieu de chasse, s'il y en a un.
Voilà.
Voilà,
ouais, ouais.
voilà. Donc, passionné de cette ville maintenant, historique, très intéressante. On va inviter finalement les gens qui sont à l'écoute évidemment de nos radios. De venir faire un petit tour aussi dans le cadre de cette ville magnifique. Hein. D'abord, qui a un côté extrêmement historique, très très important. On ne la connaît pas suffisamment bien. Il faut venir à l'aréole pour la découvrir. Il y a ce fameux château au-dessus, cet endroit tout à fait exceptionnel qui peut à la fois se visiter, avec évidemment un service culturel qui est très très important. Moi, j'invite aussi à la découverte de cette cathédrale qui est magnifique. Et surtout, venez éventuellement du côté de la découverte de son orgue qui a une histoire passionnante et intéressante. Merci à vous, merci d'avoir accepté cette jolie expérience autour de Radio Folie, puisque ça s'appelle ainsi. Cette Radio Folie qui était proposée par la FRANA, la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine. En ce moment, c'est Gérard qui vous proposait cette émission. De l'émission Passion de CFM Radio. Dans quelques instants, ce sont nos amis d'RIG qui vont prendre la suite de cette émission. À la semaine prochaine, pourquoi pas. Thank you.